Bonsoir à tous, chers auditeurs, sur cette première émission officielle de Bafweb Radio. Vous pouvez donc nous joindre, comme à l'accoutumée, en cliquant sur Chat With Me sur le site www.bafweb.com via Skype. L'invité de ce soir ne sera pas sur Skype, donc vous ne pourrez pas la voir en audioconférence, on la joint par téléphone. Mais vous pouvez évidemment nous poser vos questions en direct et en live, et nous transmettrons. C'est un petit peu du bricolage, mais c'est comme ça que ça marche. Nous recevons ce soir Bernard Anthony, président de la GRIF et de Chrétienté Solidarité, ancien parlementaire européen pour les FN qu'il a quitté depuis, phare de la droite intellectuelle française, brocardé par la gauche qu'il a traité dans l'UMA de moine soldat de l'anticommunisme, comme s'il s'agissait là d'une insulte. Bernard Anthony dirige encore la revue Reconquête, Reconquête qui n'est pas sans évoquer la Reconquista espagnole, Reconquête un mot, un homme et le souvenir d'une lutte immémoriale, le choc millénaire de deux civilisations, Islam et Occident chrétien, un choc qui renoue depuis peu avec l'actualité. L'histoire ne serait-elle qu'un cycle? Bernard Anthony nous propose d'apprendre à mieux connaître l'histoire et la culture de cet adversaire traditionnel et historique de ce que nous sommes, ou du moins de ce que nous avons été et de ce que l'Europe a pu être dans l'histoire de l'humanité. L'islam sans complaisance, aux éditions Godefroy de Bouillon, tout un symbole. Bernard Anthony, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, merci de nous avoir rejoints. Donc vous nous téléphonez en direct de France, c'est bien ça?
Oui.
Alors, je crois que dans votre biographie, j'ai quand même oublié le plus important, donc votre vie professionnelle. Vous avez d'abord travaillé dans un institut pharmacologique, si je ne me trompe.
Non, j'ai été très rapidement dans l'enseignement, et puis ensuite je suis rentré dans une entreprise de la pharmacie. C'est pas la pharmacologie exactement, ça en fait partie, mais j'ai été le directeur des ressources humaines de cette grande entreprise de la pharmacie, avant de me lancer ensuite dans la politique. Effectivement, j'ai passé 15 ans au Parlement européen.
Voilà, et comme membre du parti Front National, c'est ça?
Non, j'ai été élu sur la liste de Jean-Marie Le Pen en 1984. J'y figurais comme responsable de Chrétienté Solidarité, et je n'étais pas encore adhérent du Front National. Ce n'est qu'après, c'était évident. J'avais mis le doigt dans l'engrenage, si je puis dire, et je suis rentré donc au Front National, très vite à son bureau politique, comme Jean-Pierre Stirbois, qui était mon vieil ami des combats solidaristes, me le demandait. Et donc, pour être clair, je ne suis plus au bureau politique du Front National, j'avais toujours la carte, mais je constate qu'on ne me convoque plus au comité central dont je fais toujours partie. Ben enfin, sait-on jamais, tout ça peut évoluer.
Alors voilà, le Bafweb est un média suisse. On sait peu de choses en fin de compte sur le fondement réel de la politique française. On sait par contre que le Front National a très mauvaise presse. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu pourquoi?
Écoutez, moi je ne sais pas vous dire pourquoi le Front National a mauvaise presse, parce que je pense que la presse a surtout de la mauvaise foi, aussi bien en France qu'en Suisse, et que dans la plupart des pays d'Europe, mais enfin en France, nous sommes particulièrement en pointe. J'observe, par exemple, j'ai observé dans d'autres pays quand même des journalistes en général beaucoup plus courtois, soucieux de mieux s'informer. Alors, pourquoi? Parce que je pense qu'en France, nous sommes au fond dans, dans une période qui n'a pas beaucoup évolué, qui a été marquée par l'après-guerre, qui fit la confiscation des médias par les forces de gauche et de l'extrême gauche. Je pense que la mauvaise presse vient du fait qu'en France, les écoles de journalisme sont absolument confisquées par le politiquement correct, la pensée unique, c'est-à-dire en fait une pensée marxiste ou néo-marxiste. Et je souhaiterais que vous invitiez un jour ma collaboratrice Cécile Montmirail, qui parle souvent avec moi sur Radio Courtoisie et qui sort du Centre français de formation des journalistes. Elle vous raconterait combien cette école-là est davantage une école d'apprentissage des mécanismes de la désinformation que de l'information non pas objective, mais qui s'efforcerait tout de même de respecter une certaine honnêteté.
Entendu.
Alors, pour ce qui est du Front National, eh bien, celui-ci a eu le tort de dénoncer ce qui allait à l'encontre, au fond, du grand rêve utopique contemporain. Je dois dire, permettez-moi cette petite pointe d'orgueil, que j'ai été le premier, alors que je n'étais pas encore au front, et que le front était encore très balbutiant, à écrire un long article qui s'est appelé « Le génocide français ». Le génocide français, c'était pour moi ce qui était en train d'anéantir mon pays, et le génocide n'est pas terminé, il se poursuit, mais c'est aussi un génocide européen, parce que bien entendu la France fait partie de l'Europe, et hélas l'Europe est gangrénée de même, avec quand même des exceptions heureuses comme la Pologne aujourd'hui. Alors voilà, le génocide français, je le décrivais de la manière suivante: des Français qui sont de moins en moins chrétiens, des Français qui se sentent de moins en moins français, et des Français qui sont de moins en moins nombreux en France, par le jeu conjugué de l'immigration et de l'avortement. Sur cet thème-là, le Front National était largement d'accord. J'étais donc tout à fait chez moi au Front National, dont j'ai dirigé d'ailleurs l'université d'été, qui était la pièce maîtresse du système de formation, pendant 19 ans. Alors, bien entendu, il y a eu beaucoup de tempêtes autour du Front National. Il y a eu les fameux, ce que l'on dit être les dérapages de Jean-Marie Le Pen, les calembours, enfin, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage, parce qu'enfin, ça n'a pas été grand-chose, si l'on veut considérer cela sur une période qui est celle de presque un quart de siècle. Mais enfin, Jean-Marie Le Pen avait eu donc le tort d'employer le mot « détail » comme il est habituellement compris, lui qui enseignait qu'il faut employer les mots comme les hommes le reçoivent. Ça a fait un très mauvais effet de parler des chambres à gaz comme un détail de l'histoire. Nous l'avons défendu à cette époque-là pour dire que le détail, ça veut dire la partie d'un tout, et que Robert Aron, qui est un grand historien qui n'est pas suspect de complaisance pour le nazisme, écrivait la façon dont on mourait était un détail. Bon, on n'a pas reproché à Robert Aron, qui était d'ailleurs un grand honnête homme, ce que l'on a reproché à Jean-Marie Le Pen. Bon, il y a eu ensuite d'autres histoires, d'une manière générale, ce qu'on reprochait au Front National, c'était tout simplement de se mettre en travers d'une autre conception du monde, d'une autre conception de la vie même, et je crois que c'est cela, avant même ensuite les quelques dérives que j'ai pu pour ma part observer, et sur lesquelles j'ai exprimé mon désaccord, mais j'y reviendrai si vous le voulez.
Alors voilà, parce que tout cela ne nous dit pas pourquoi vous avez finalement quitté le parti du Front
National. Ah oui, je ne sais pas si ça a un grand intérêt, je peux le dire cependant très clairement. D'une part, je reprochais à Jean-Marie Le Pen de ne pas vouloir un véritable fonctionnement du bureau politique du Front National. J'ai fait partie de ce bureau politique pendant près de 20 ans. Je ne dis pas que je ne m'y exprimais pas, j'étais parmi les 4 ou 5 qui, je crois, avaient le courage, parce qu'il faut du courage, parce que Jean-Marie Le Pen a bien des qualités que je lui reconnais, mais il a aussi des défauts, et le défaut, c'était que quand il avait parlé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ensuite, donc, il n'aimait pas que l'on parle plusieurs minutes, et c'est ainsi que j'ai côtoyé des gens admirables, comme Jules Monnerot, qui a été vraiment le grand écrivain du communisme en France, un de ceux qui a le mieux décrit avec sa sociologie de la révolution le communisme, qui n'a jamais rien dit dans ce bureau politique du Front National. Donc, et surtout dans ce bureau politique, on n'analysait pas ce que je trouvais absolument nécessaire pour un parti, un mouvement politique, j'aime pas le terme de parti, aussi combattu que le nôtre. On ne voulait jamais étudier à fond certaines questions. Je m'explique, jamais nous n'avons passé sérieusement une heure à étudier la franc-maçonnerie, sans a priori, mais je pense qu'on ne peut pas faire de la politique si on ne considère pas le phénomène maçonnique qui est d'une ampleur aujourd'hui en France sans précédent, et pas qu'en France. Par exemple, nous n'avons jamais consacré une journée à l'islam. Rien. Là, je dis bien que si je dois émettre un regret, c'est que ce mouvement qui a été le plus combattu qu'on ait jamais connu, au moins dans le monde moderne en France, en période de paix, n'a rien consacré comme étude sérieuse, je dis bien, à des phénomènes tels que l'islam, tels que la communauté juive dans sa diversité, hein, ça n'allait pas au-delà des conversations de café du commerce. Bon, j'ai démissionné du bureau politique pour protester contre cela, pour protester aussi contre une conception archaïque jacobine du mouvement, dont on voit aujourd'hui les résultats, parce que Jean-Marie Le Pen, grâce à ses qualités éminentes, il est vrai, donc il a su rallier derrière lui un électorat, mais il n'a jamais constitué un mouvement structuré. Je pense que cela aurait pu être fait, encore une fois, grâce à lui, parce que ma critique serait absurde si elle était, comment dirais-je, motivée par une quelconque animosité personnelle. Ça n'est pas le cas. Encore une fois aussi, je ne vais pas nier les qualités éminentes, et justement, ce que j'ai toutefois reproché à Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il a reçu énormément de la providence et que peut-être il n'a pas fait fructifier comme il aurait dû et comme il aurait, je crois, pu. Ensuite, il y a eu donc un désaccord conjoncturel sur ma non-investiture pour les élections européennes de 1998. Alors, de quoi s'agissait-il ? J'avais été pendant 15 ans, effectivement, au Parlement européen, au congrès de Nice du Front National, représentant quand même, je crois, un certain nombre de sympathies. J'ai été un des mieux élus, arrivé en 5e position. Et la fois d'avant, je n'avais pas été réélu, je n'avais éprouvé aucune amertume. C'était dû probablement à l'erreur qui avait consisté à mettre le petit-fils du général de Gaulle, Charles de Gaulle, sur la liste. Ceci a été très mal perçu, notamment par l'électorat pied-noir. Mais je n'avais rien dit, parce que effectivement, on aurait pu penser que j'étais hostile à Charles de Gaulle par je ne sais trop quelle nostalgie haineuse du grand-père, qu'effectivement je considère comme une catastrophe pour notre pays. Je n'avais rien contre le petit-fils, en dehors du fait qu'il était strictement nul, et je n'ai rien dit. Mais la fois d'après, il y avait un choix à faire entre deux lignes politiques, celle de Jean-Claude Martinez et la mienne. Donc là, il ne s'agissait pas d'une querelle du tout de personne, il s'agissait de choisir entre les conceptions de Bernard Anthony et celles de Jean-Claude Martinez. Or, Jean-Claude Martinez est un homme très intelligent, lui aussi il a été très bien servi par la Providence, il est souvent très amusant, il a le sens de la formule, enfin je ne parlerai pas de lui s'il n'avait pas des qualités, mais il ne se remet pas de sa jeunesse dans l'extrême gauche, et il est capable de toutes les pirouettes intellectuelles, de toutes les contradictions, et je dois dire que son orientation à gauche toute, et surtout sa formule encore plus surprenante, que je résumerai, Paris vaut bien une mosquée, ça, non. Nous étions donc en parfait désaccord, et je dois dire que le fait qu'il soit le conseiller de Jean-Marie Le Pen pour les élections présidentielles m'inquiète quelque peu.
D'accord. Mais vous avez d'autres cordes à votre arc. Vous avez par exemple la griffe. Qu'est-ce que c'est que la griffe ?
Oui, vous savez, je tiens à le préciser, je n'avais pas attendu d'être un élu pour vivre. Ce fut même le contraire. J'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le directeur des relations humaines d'une grande entreprise, et en allant au Parlement européen, je perdais plutôt sur le plan matériel. Je dis cela parce qu'il faut toujours dire les choses très clairement. Ce n'est pas cela que je regrettais en n'étant pas élu, c'est de ne plus pouvoir témoigner sur certains théâtres d'opération de l'honneur français. Jean-Marie Le Pen m'avait souvent rendu hommage sur ce que je faisais, que ce soit au Liban, au Nicaragua, en Afrique et ailleurs, et donc je regrettais de ne plus pouvoir faire cela, et effectivement ce n'est pas Jean-Claude Martinez qui a les mêmes sympathies que les miennes. Lui, il a des sympathies pour Fidel Castro, il a des sympathies pour les frères Ortega, il est allé rencontrer ceux qui avaient failli me tuer à une certaine époque. Vous voyez que le débat était quand même sérieux. Alors, je ne suis plus député, mais le combat continue, et je dirige donc toujours Chrétienté et Solidarité, avec, comment dirais-je, sa ramification internationale, avec aussi des joies quand je constate que mon vieil ami Marek Jurek est aujourd'hui la présidente de la Diète polonaise, alors que je l'ai connue militant très pauvre et pas désespéré, parce que justement c'était un homme plein d'espérance, mais quand je l'ai connu, il avait tout pour désespérer. Le voilà président de la Diète, c'est une bonne chose. Alors donc, je continue Chrétienté Solidarité.
Alors, pardon, mais qu'est-ce que c'est exactement que Chrétienté Solidarité ? C'est une association, c'est une...
Voilà, alors c'est un centre d'initiative, c'est un mouvement que j'ai créé dans ça remonte loin, hélas. Pour les jeunes auditeurs qui m'écoutent, certains n'étaient probablement pas nés, tant mieux pour eux. C'était dans les années 80. C'était un mouvement, au fond, qui sortait avec une affirmation chrétienne de ce qu'on appelait à l'époque les groupes solidaristes. Nous étions en liaison, le plus connu de ces militants solidaristes avec moi, c'était Jean-Pierre Skirbois, qui est mort aujourd'hui, qui a été qui a été un secrétaire général du Front National très efficace, et nous étions donc des militants anticommunistes, effectivement. Tout à l'heure, vous rappeliez les propos de l'Humanité, nous étions des militants anticommunistes, primaires, viscéraux, systématiques, mais surtout systématiques. Ça voulait dire que nous savions décomposer le système communiste et nous savions donc le combattre. Et la joie que j'ai aussi, c'est d'avoir participé à quelques victoires, et non des moindres, contre le communisme. Alors, Chrétienté Solidarité s'est formée à cette époque-là avec une vocation soutenir les peuples donc en butte au communisme ou à l'impérialisme islamique. Alors... Voilà donc ce qu'était le mouvement, et il s'est, comment dirais-je, affirmé dans un certain nombre d'initiatives très 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 fondées, très 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 agissantes, par exemple au Liban, où pendant plus de 15 ans de guerre, nous avons été présents systématiquement, faisant vivre, et je salue aussi les Suisses qui nous ont aidés avec une immense énergie, c'est les amis dont nous avons parlé tout à l'heure. Hein, ils ont été particulièrement généreux, admirables, héroïques, parce que je ne saurais trop dire tout le bien que je pense d'eux. Nous avons fait vivre des milliers d'orphelins ou d'enfants malheureux, 3000 exactement. Ça, c'était le Liban. Nous avons été très proches de ce que l'on appelait la résistance chrétienne libanaise. Et là, il y aurait tant à dire, je répondrai aux questions s'il y en a. Nous avons de même été au Nicaragua, c'était beaucoup plus loin, beaucoup plus difficile. Là, ça a été quelque chose de très émouvant. Nous avons participé à nous avons organisé quelques initiatives pour aider les malheureux combattants de la Contra qui étaient dans des conditions épouvantables. Et là, je n'ai pas ramené, je dois le dire, une très bonne impression de leur grand allié américain. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et puis enfin, nous avons beaucoup agi en Croatie pour faire vivre pendant 5 ans aussi des orphelins croates de la région de Slavonski Brod. Je peux peut-être tout à l'heure me posera-t-on des questions sur l'ex-Yougoslavie. J'y répondrai volontiers. Voilà ce qu'a été Chrétienté Solidarité. Ça a été aussi une solidarité avec les Indochinois en lutte contre le communisme, notamment les Laotiens du général Bun Lut et d'autres organisations, mais là ça serait comment dirais-je, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que ça serait un peu long et fastidieux.
Entendu. Et alors, pour ce qui est de la griffe, il faut nous expliquer ce que c'est.
Alors, la griffe aujourd'hui. Alors, que veut dire la griffe? On a d'abord, comment avons-nous créé cela? J'ai créé la griffe à partir d'une indignation. Une indignation, un jour, j'ai relevé dans la presse la condamnation d'une pauvre femme parce qu'elle avait publié une simple petite annonce dans le journal Midi Libre où elle recherchait un locataire chrétien et français. Donc voilà, c'était une abominable discrimination. Cette pauvre femme qui n'y comprenait rien, a été condamnée. Or, elle avait un fils infirme. Il allait de soi que sous son toit, elle voulait mettre de préférence un chrétien et français. Je ne pense pas qu'on aurait condamné des personnes d'autres religions réclamant quelqu'un de même religion, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc j'ai été indigné et je me suis dit il faut faire quelque chose pour les racismes que l'on ne combat jamais et qui allaient se développant, et que je définissais le racisme anti-français et le racisme anti-chrétien. Nous avons mis beaucoup de temps pour nous imposer, pour être agréés donc, par la Cour de cassation. La GRIF, en effet, se bat dans le cadre de la loi existante. Je vais y revenir. Mais pourquoi la GRIF? Parce qu'on avait cette idée de griffer, la griffe du lion, hein, ne pas nous laisser faire. Et puis on a trouvé ensuite les lettres, Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Voilà, c'était créé. Étant donné que la GRIF agit dans le cadre d'une législation que par ailleurs nous souhaiterions fort différente pour le moins, mais c'est la législation dite antiraciste qui connaît en France deux volets. Un premier qui a été celui de la loi Pleven de 1972, donc renforçant en quelque sorte l'établissement de la sanction aggravée pour racisme, pour haine, ou comment dirais-je, oui, pour haine, à l'égard de quelqu'un ou d'un groupe en raison de leur appartenance raciale ou religieuse. Le deuxième volet, c'est la loi Rocard-Guesso de 1990 qui renforçait aussi la persécution contre ceux qui émettraient donc des opinions historiques non conformes à non conformes, on ne sait pas d'ailleurs à quoi, parce que finalement ça n'a jamais été défini. Et nous sommes donc là au cœur d'une bataille qui est, je crois, une bataille essentielle. Nous avons été seuls assez longtemps à voir en effet que l'antiracisme ou le soi-disant antiracisme était la plus monstrueuse des idéologies. Une idéologie monstrueuse, pourquoi? Eh bien, maintenant, M. Alain Finkielkraut s'en est aperçu, et d'autres que lui, parce que l'antiracisme, au sens traditionnel du mot, n'a plus rien à voir avec cela. Bien entendu, s'opposer, ne pas accepter la haine contre quelqu'un en raison de sa couleur de peau, c'est du bon sens. Il n'est même pas besoin d'être chrétien pour ne pas haïr quelqu'un parce qu'il est rouge, noir ou vert, que sais-je. Mais l'antiracisme, en fait, s'est imposé comme une idéologie nihiliste, interdisant toute préférence de quelque ordre que ce soit, interdisant donc toute préférence, interdisant toute discrimination, et on peut lire d'ailleurs, un exposé très clair de ce qu'est l'antiracisme dans ce qu'on nous avait proposé comme constitution européenne, dans la charte fondamentale, le refus de toute discrimination fondée sur la race, sur la nation, la religion ou l'orientation sexuelle. D'accord. Alors, discrimination fondée sur la race, nous acceptons, mais discrimination fondée sur la nation, non, parce que jusqu'à présent, toutes les nations prospères de l'histoire ont vécu en accordant à leurs ressortissants des droits et des devoirs que les non-citoyens n'ont pas. Discrimination fondée sur la religion, nous pensons et nous continuerons à le dire coûte que coûte que nous avons légitimement une préférence religieuse, et je constate que l'islam d'ailleurs ne se prive pas d'une manière absolument odieuse, puisque en ce moment même est menacé de mort un homme qui s'est converti de l'islam au christianisme. au catholicisme, dont l'islam ne se prive pas d'affirmer pour sa part une préférence d'une nature que nous ne prenons pas. C'est une affaire entendue.
Entendu, oui.
Mais enfin, donc, refus de préférence raciale, refus de préférence nationale, refus de préférence religieuse, refus de préférence étant à l'orientation sexuelle. Et là, on touche à ce que j'appelle le nihilisme de l'antiracisme, parce qu'enfin, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui, au fond, n'aurait plus droit à une affirmation de sa race, au sens où nous l'entendons nous, au sens de Frédéric Mistral, au sens de Charles Péguy, c'est-à-dire non pas quelque chose de un patrimoine purement biologique, mais un ensemble de traditions. La race, il y a racine, et je crois qu'il faut être fier de sa race. Hein, encore une fois, nous savons bien ce que nous entendons par là, et nous avons toute légitimité pour être fiers de notre nation, de notre culture, mais je crois aussi que le refus de toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, alors là on sait ce que cela veut dire, on poursuivra demain l'Église catholique parce qu'elle ne voudra pas, ou des établissements parce qu'ils ne mettront pas sur le même plan, parce qu'ils ne voudront pas d'éducateurs homosexuels prosélytes, et c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Donc l'antiracisme interdisant aussi de désigner les réalités, c'est ce dont M. Findelkroff s'est enfin aperçu, parce que je parle de M. Findelkroff parce que c'est un homme intelligent, il est professeur d'école polytechnique, il fait de bons livres, il est un vrai philosophe, contrairement à M. Bernard-Henri Lévy, lui, qui est un philosophe autoproclamé. Findelkroff, non, est un vrai philosophe, mais Findelkroff fait partie de ces gens qui ont été les responsables de l'antiracisme. Hein, il a été, il est encore, je crois, à la LICRA, et voilà que maintenant ils s'aperçoivent que sous le couvert de cet antiracisme, eh bien, il y a donc une situation sociale qui s'est installée et dont les Juifs s'inquiètent aujourd'hui. Ils ont quand même, certains d'entre eux ont été à l'extrême pointe de l'antiracisme, et voilà qu'aujourd'hui ils sont terrifiés des conséquences de ce qu'ils ont contribué à mettre en place.
Anthony, mais alors, en ce qui concerne la question de la race, faut-il l'entendre uniquement, justement, génétiquement parlant? Vous avez dit que non. Mais alors, comment? Parce que bon, il y a un patrimoine culturel. Je veux dire, l'Empire français est vraiment un exemple de cette confusion qu'il peut y avoir entre race et nation.
Oui, alors là c'est une bonne question. Je m'aperçois en vous écoutant que j'ai un peu oublié ensuite les combats spécifiques de la griffe, j'y viendrai, mais j'ai plutôt cerné dans quel débat de fond nous étions, et je viens à votre question, et celui donc d'organisation dite antiraciste qui jamais ne s'était aperçu qu'il y avait un racisme très prospère, le racisme anti-français et le racisme anti-chrétien. Alors, pour ce qui est de votre question, qui est effectivement une question de taille, je pense que la France, les pays sont différents, ont des patrimoines différents, c'est par excellence. Un pays qui n'est pas une race, ça n'est pas non plus une langue. L'Allemagne est une langue et c'est un peuple uni. C'est une race même au sens donc d'une plus puissante unité visible. La France, non, elle est faite, c'est une alchimie de peuples issus de germains, de latins, d'ibères, basques, donc plus lointaines origines. Donc c'est une culture plus qu'une race, effectivement, au sens habituel du mot. Et puis nous avons été un empire. Et cet empire, donc, a eu ses bons et ses mauvais côtés. Nous en récoltons aujourd'hui, en grande partie, les mauvaises conséquences. Mais j'ai par exemple, pour ma part, outre mes quatre filles, j'ai eu des filleuls vietnamiens. Ces filleuls vietnamiens sont des Français admirables. Ils sont tous aujourd'hui, ils ont parfaitement réussi dans la vie. Je ne les ai jamais vus manifester dans quelque émeute que ce soit. qui sont aujourd'hui ingénieurs de grande école, ou pour ce qui est de Nathie Thérèse, elle est sortie première d'HEC. Ça donne d'excellents Français, avec évidemment leur origine vietnamienne admirable, parce que j'ai pour ma part beaucoup d'affection pour l'Indochine et pour le Vietnam en particulier. Et donc voilà, nous avons été un empire et on ne peut pas oublier ce passé. J'ai siégé pour ma part dans une institution qui s'appelle l'Assemblée paritaire Afrique-Caraïbes-Pacifique, Union européenne. C'est une institution européenne qui sert à dépenser beaucoup d'argent, qui tient une grande partie de l'Afrique sous perfusion. J'y ai siégé pendant 10 ans. Mais je dois dire que j'aimais y siéger pour écouter parler admirablement le français les orateurs africains. Ils parlent un français très châtié, un peu vieille France d'ailleurs. Et je me disais qu'il était triste que nous ayons abandonné ces pays dans des conditions souvent très lamentables. Nous avons tout de même réussi à donner à ces peuples africains une langue véhiculaire, sans quoi ils ne se comprendraient pas entre eux. Alors bon, bien sûr, maintenant ils peuvent parler l'anglais, mais enfin le français tient bon, et je suis personnellement très attaché à la francophonie. C'est ce que j'ai exprimé non seulement en Afrique quand j'y étais, mais par exemple au Canada aussi.
Entendu. Alors je reviens, effectivement je suis un peu tenace, je reviens à la griffe. On voudrait savoir un petit peu comment s'expriment ces cas de racisme anti-français ou dirigé contre l'identité française, et comment est-ce que la griffe peut intervenir, est-ce qu'il y a des procès, voilà. Comment ça voilà. Se termine, qu'est-ce
Alors,
que ça donne en général.
Voilà. Donc, la griffe est un mouvement bien spécifique sur ce créneau-là que j'anime, mais point seul, mais j'en suis le principal animateur pour ce qui est des réunions que je tiens à travers tout le territoire en raison de 3 ou 4 par mois. Donc, la griffe, c'est d'abord un syndicat de défense des Français qui réunit aujourd'hui environ 6 000 adhérents. Ces adhérents sont invités aussi à nous faire parvenir les informations sur les actes de racisme anti-français ou anti-chrétien. Ils constituent donc un maillage d'observation et par exemple les églises incendiées, les chapelles profanées comme récemment en Bretagne, les assassinats avec des caractéristiques par exemple sataniques comme ce fut le cas de l'assassinat d'un prêtre près de Colmar en Alsace. C'est aussi la vigilance, par exemple, sur les groupes de rap. Nous avons été très, nous observons ce processus barbare qui va du groupe délicieusement appelé Nique ta mère jusqu'à Sniper. Alors, pour prendre un exemple, le groupe de rap Sniper, donc appel au viol, au meurtre, à l'insurrection, ceci avec une impunité absolument incroyable. Lorsqu'on sait qu'on a mis en prison un jeune militant nationaliste pour simplement avoir écrit un tract dans lequel il disait imprudemment peut-être certains termes de préparation à la guerre civile, on a vu d'ailleurs ce qui en était. Ils n'auraient sans doute pas dû écrire ces choses-là dans les termes où il les écrivait. Enfin, il n'a jamais fait qu'un papier, il n'a pas volé de voiture, il n'a pas violé, il n'a pas brûlé, il n'avait pas. Il a fait 4 mois de prison. C'est tout de même hallucinant. Or, les groupes de rap, eux, appellent au viol et appellent au meurtre. Je ne vais pas vous lire, je n'ai pas sous la main ici ce qu'on appelle des chansons.
Nous,
mais
on connaît en
mais
général,
enfin,
un petit peu,
oui. Par exemple, le groupe Sniper. Le groupe Sniper, nous l'avons poursuivi avec notre avocat de Toulouse, Maître Bonneau, qui est un excellent avocat. Nous l'avons poursuivi à Toulouse. Et là, nous avons obtenu gain de cause, pas beaucoup. On sait très bien quelle ambiance règne dans ma ville de Toulouse, mais enfin, tout de même, ils auraient été interdits de chanter sous peine d'astreinte de 700 euros par minute. Pour eux, ça n'était rien. Mais enfin, ils n'ont pas chanté. Un chant qui s'appelle La France, dans lequel il est dit que la France est une garce, qu'il faut la baiser jusqu'au bout, etc. Enfin, vous voyez. Donc, tout ce à quoi cela fait appel. J'observe d'ailleurs qu'à Toulouse, récemment, un procès a eu lieu où l'on a condamné, heureusement, pas beaucoup, des violeurs. C'est une affaire de viol comme il y en a et l'astro. Et ces violeurs se sont défendus en disant qu'ils étaient en quelque sorte conditionnés par les appels du rap. C'est un aveu très intéressant, parce qu'à force d'écouter ces incantations-là, ces incantations barbares, il va de soi qu'il y a du passage à l'acte. Les psychiatres connaissent ces choses-là. D'ailleurs, c'est une chose que l'on, comment dirais-je, que l'on a fait remarquer aux jeunes militants dont je parlais tout à l'heure pour un simple écrit, pour ce qui est des rappeurs où la violence, donc l'abomination va très loin, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors nous avons fait condamner le groupe Sniper. Il y avait eu d'ailleurs, par ailleurs, des manifestations organisées par des groupes identitaires qui n'ont rien à voir avec la griffe, mais ce sont des voisins, et ils ont agi eux sur un autre plan. Et d'une certaine manière, il y avait une complémentarité heureuse que je salue. Autre exemple, à Toulouse, nous avons eu une victoire dans une affaire appelée Sainte Capote. Colossal finesse, il s'agit là d'un défilé qui avait lieu annuellement, donc organisé par l'association de soi-disant lutte contre le sida. C'est une association d'escrocs, parce que c'est une escroquerie morale. Et je dois même me dire, il y a beaucoup à dire sur l'utilisation des fonds qu'elle fait. Alors, cette association AIDE, qui prétend combattre le sida, organise des défilés pour promouvoir le préservatif, et avec des personnages, déguisés en religieuses, décrirait pas, qui sont donc en cornette et des robes de religieuses très ouvertes par derrière. On ne voit pas très bien comment cela peut aider à lutter contre le sida. En tout cas, c'est la promotion du préservatif, la promotion d'un document à dégueuler. J'ai été, pour ma part, je dois dire, je ne suis pas puritain, j'ai été dans ma vie étudiante. J'ai été le président, ou plutôt le secrétaire général de la Fédération des étudiants de Toulouse. On avait quelques traditions joyeusement paillardes. Ça n'a rien à voir avec la dégueulasserie de ce que propagent les associations de lutte contre le sida. Eh bien là, nous avons porté plainte. Il y a eu aussi des étudiants qui ont réagi sans que nous les connaissions, sans concertation avec eux. Je crois savoir qu'ils ont enfumé avec des fumigènes. C'était gentil, c'était là vraiment du chahut d'étudiants dans les lieux fréquentés par cette association. Mais nous sommes un peu plus sérieux. Bon, c'est notre rôle, hein. Nous sommes allés devant le tribunal, et là, je dois dire que ma joie était grande. D'abord, lorsque j'ai montré au juge d'instruction les documents, les photos, les vérités sur AIDE, je crois qu'il a été sérieusement impressionné. J'ai d'ailleurs demandé aussi, parce que cette association reçoit beaucoup d'argent, elle est financée, vers quel laboratoire de recherche cela pouvait aller, vers quel centre de soins, et il semblerait qu'on n'ait rien trouvé. Cet argent-là, donc, qui est donné pour lutter contre le sida, n'est utilisé que pour de la propagande. J'appelle cela une escroquerie. Hein. Et surtout pour diffuser, hein, c'est une escroquerie morale abominable, des pliants qui sont des documents de prosélytisme homosexuel avec toutes les pratiques qui sont exposées et dessinées. Eh bien, le procès est venu. D'abord, les dirigeants de AIDE n'avait pas voulu se rendre à la convocation, il avait dit eux-mêmes, d'un petit juge de province. Ce petit juge l'a très mal pris, c'était une dame très sérieuse, pas du tout exaltée, qui faisait son travail, et elle les a fait arrêter à Paris. Ils ont été bien obligés de venir répondre à ces questions. Lors du procès, ben, j'étais très, très content, je dois le dire, parce qu'il y avait là toute une assemblée de vieilles lesbiennes. L'une d'elles s'est approchée de moi en me disant « Monsieur, le préservatif », je lui dis « Écoutez, madame, vous êtes un préservatif à vous toute seule hein. ». Bon, il y avait donc là une assemblée de vieilles gouines, d'homosexuels rancis. Ah, ils étaient tristes, ils faisaient peine à voir. Et nous avions là une soixantaine de jeunes étudiantes et étudiants. Les filles étaient très belles, très, très rigolardes. Les types étaient normaux. Et je regardais la gueule de l'association des gays et lesbiennes en marche. C'est comme ça qu'il s'appelle à Toulouse et même dans d'autres villes. Cette pauvre association des gays et lesbiennes en marche me paraissait fort peu en état de marche. Voilà donc une victoire de la DRIF. Nous avons gagné, ils ont été condamnés et nous avons été donc très heureux de cette condamnation, parce que je crois que nous avons fait là œuvre de bonne santé physique et morale.
Alors, est-ce que dans l'ensemble, c'est justement des petites opérations de ce type-là qui finalement reviennent à se battre contre des moulins, ou est-ce que vous pensez que dans le fond, socialement, ça amène vraiment quelque chose au débat, que ça aide à préserver les valeurs pour lesquelles vous luttez?
Ben, écoutez, de toute façon, le pire, c'est de ne rien faire. Et je crois que nous avons aussi, je pourrais vous raconter, mais ça serait trop long, très fastidieux, nous ferons le bilan de cela d'ailleurs lors de notre grand dîner annuel qui va avoir lieu cette année au pavillon qui va avoir lieu au Bois de Boulogne. Nous allons inviter d'ailleurs les ministres de la République, les autorités religieuses, donc pour nous écouter et nous répondre. Oui, je crois que nous avons agi efficacement. D'abord parce que aujourd'hui la jurisprudence de la DRIF qui constitue 4 volumes de la Gazette du Palais, qui est le principal journal de jurisprudence, organe de jurisprudence au Palais de Justice de Paris, donc cette jurisprudence porte. Et il va de soi que dans ce qui a été débattu dernièrement à propos des caricatures de Mahomet, donc on nous a invoqué souvent. Je crois que le pire est de ne rien faire. Nous sommes de ceux qui n'acceptons pas ce qu'il faut tout simplement appeler une décadence. Nous n'acceptons pas le meurtre de notre peuple, le génocide de nos peuples, et le pire, c'est de ne rien faire. Enfin, nous n'acceptons pas le blasphème, et il va de soi que les autorités semblent ne s'émouvoir que lorsqu'il s'agit de blasphème à l'égard du prophète Mahomet. Donc, nous considérons qu'il est tout de même infiniment plus grave que ce que les chrétiens ont eu à subir dans ce pays, est infiniment plus grave que les caricatures du prophète Mahomet, dont une seule était peut-être très légèrement offensante.
Mais d'ailleurs, il y a un projet de loi qui vient d'être de nouveau proposé. Ça ressemble vraiment à des choses qui sont faites exprès pour ces questions de caricature et
oui,
un peu au service de l'islam, effectivement.
Je m'exprimerai sur le sujet la semaine prochaine devant la cour d'appel de Paris. S'il y a des auditeurs parisiens qui sont là, ils peuvent venir. Ça sera donc à 13h30 mercredi prochain, 29, devant la 11e chambre de la cour d'appel à Paris. Parce que là, va se traiter une affaire qui est celle du dessin du Christ en croix affublé d'un préservatif paru dans le journal Libération. Alors là, oui. Le Christ en croix affublé d'un préservatif paru dans le journal Libération, ça n'avait indigné personne.
Et ça les autorités religieuses. Qui avait publié ce dessin?
Le journal Libération.
Oui, le journal, mais pour quelle
association? Pardon?
C'était pour une association particulière ou c'était juste...
Non, le journal Libération, c'est un grand quotidien français, c'est le quotidien fondé par le trotskiste, le maoïste Serge Julie, mais mais que finance aujourd'hui la banque Rothschild. Donc c'est la banque Rothschild qui est propriétaire aujourd'hui majoritaire de ce journal Libération, donc qui tire à 300 000 exemplaires, enfin bon, dont les ventes diminuent fort heureusement, mais enfin qui est un des grands quotidiens français, hein, un des trois ou quatre grands. Donc un dessin de William dans Libération, ce n'est pas un bulletin anarchiste confidentiel, c'est tout à fait autre chose que Charlie Hebdo, que nous avons poursuivi aussi pour ces abominations. Nous avons poursuivi à maintes reprises, nous pensions que c'était de notre devoir de ne pas accepter. Et là, cette affaire vient en appel, et je m'exprimerai sur ce que je crois être les limites de la liberté d'expression. Donc nous défendons la liberté d'expression, mais on ne voit pas pourquoi, seuls les catholiques devraient tout accepter. Alors nous n'avons pas, comme les musulmans, lancé des fatwas, organiser des manifestations, incendier des ambassades, faire des appels au meurtre. Enfin, c'est hallucinant dans le comportement de l'islam, mais c'est conforme à ce que nous savons. Nous contentons d'aller devant les tribunaux et de demander que soit jugé quelque chose qui est parfaitement offensant pour les chrétiens. Et nous disons qu'à force de publier comme cela des dessins non seulement de dérision, mais de blasphème, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors, hélas, c'est tant on s'est mis à toucher aux musulmans qu'on a commencé à réagir. J'ai d'ailleurs, mes cheveux se sont dressés sur ma tête, j'en ai pas beaucoup, il est vrai, de cheveux, mais enfin, ils se sont dressés quand même, lorsque le cardinal Barbarin de Lyon a eu l'audace, le culot, le mensonge de proférer que à propos des caricatures de Mahomet qui indignaient beaucoup, que les catholiques réagissaient si on les injuriait de la même façon. Mais je rêve, parce qu'enfin il y a eu des abominations sur le Christ comme celle que je dis, hein, donc le Christ en croix avec un énorme préservatif, le cardinal Barbarin, qui est quand même informé, ils ont un service de presse, ils n'ont rien dit, nous les avions alertés, aucun évêque n'est monté au créneau pour défendre l'honneur du Christ. Ah, mais ils étaient là pour défendre l'honneur de Mahomet, qui tout de même n'est pas diffamé, parce que la personnalité de Mahomet, qui n'est qu'un homme, est quand même très différente de celle du Christ.
Entendu, oui. Mais je me souviens même, pendant, il y avait ce film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ,
oui.
Je me trouvais à Bourg-en-Bresse à ce moment-là, il y avait une manifestation devant un cinéma, et c'était les musulmans qui manifestaient, parce que le Christ est un prophète.
Oui,
il fallait pas y toucher, donc c'est quand même un peu le comble aussi.
Oui, voilà. Ouais. Donc, c'est d'ailleurs, je dois dire que les musulmans avaient raison de manifester. Nous avions organisé, nous, la réaction contre cet abominable film, mais avec une nuance près, vous voyez, c'est que nous préférons aller devant les tribunaux.
Entendu.
Voilà, je ne sais pas si je vous ai assez parlé de
la
griffe, je pourrais continuer, mais je ne veux pas que les auditeurs...
Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va faire une petite pause, on va passer un disque, n'est-ce pas ?
Oui.
Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent donc toujours nous contacter soit par email, soit via Skype pour poser leurs questions. On vous retrouve tout à l'heure.
Merci.
Well, I'm talking about whiskey drinking. Well, we're gonna find a fight. The world and house was your delight. You got women on your mind all the while. And now I miss them good old days, my friend. I wish them days would never end. If only I could bring them back again. But the wheel, it just keeps spinning around. fighting fool. And you're singing every step along the way to the grave. All them were drunk and I'm looking blue.
Nous sommes toujours sur Radio Bafweb pour cette deuxième heure en compagnie de Monsieur Bernard Anthony. Nous allons parler à présent de son dernier livre, L'Islam sans complaisance, aux éditions de Godefroy de Bouillon. Alors, Monsieur Anthony, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis là.
Donc, ce livre, pourquoi l'avoir écrit? Pourquoi maintenant? Dans quelles circonstances?
Oui, parce que, bien sûr... il y a une émergence considérable du fait islamique. Lorsque je remonte un tout petit peu en arrière, ce n'est pas très loin pour moi, mais il y a seulement 20 ans, l'islam ne faisait pas la une des journaux. Le mur de Berlin n'était pas encore tombé et le communisme et l'anticommunisme étaient ce qui nous occupait. Il y a eu... une prodigieuse irruption du fait islamique dans nos pays européens, donc au cours des 15 dernières années, des 20 dernières années, on verra bien, cela a été s'accélérant. Mais de même que avant-guerre, je parle de la Seconde Guerre mondiale, on ne connaissait pas Mein Kampf d'Hitler, de même que on ne connaissait pas Lénine, l'islam demeure quand même inconnu de la plupart de nos compatriotes. On sait vaguement ce que c'est, le Coran, on en a entendu parler, on côtoie les musulmans dans la rue, mais on ne sait pas donc ce qui les inspire. Alors il y a évidemment beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres qui paraissent sur l'islam aujourd'hui, il y en a de très bons, il y en a de moins bons. Moi, j'ai voulu faire quelque chose dans la logique un tout petit peu du dictionnaire de la réplique, qui a été une œuvre maîtresse du Centre Charlier, il y a 3 ans, qui continue toujours à très très bien marcher, qui va être à nouveau retirée. Donc j'ai voulu faire quelque chose de pédagogique, se situant entre des petits fascicules, des topos, qui peuvent être très bons, des résumés, ou bien alors des ouvrages beaucoup plus scientifiques, excellents aussi, mais qui ne sont pas à la portée de tout le monde. J'ai essayé de faire, parce que c'est ce que je crois savoir faire, un livre pédagogique avec un plan très simple, qui permette donc de connaître l'essentiel de ce qu'il faut connaître sur l'islam. Alors, le voyez, c'est dans le sommaire de ce livre, je définis ce qu'est être musulman, les 5 piliers de l'islam, ce qu'est le Coran, ce qu'est le Mahomet, ce que sont les hadiths et la sunna, et puis je décris la vie de Mahomet en me référant, mais je répondrai à vos questions, donc à la biographie officielle du prophète. J'analyse le Coran, j'analyse les grandes phases de l'histoire de l'islam. Là, évidemment, c'est du résumé, mais j'ai essayé donc celle-là, les constantes de l'islam, ce qu'est l'islam chiite, c'est bien entendu, ce qu'est l'islam sunnite, enfin et surtout l'islam et le christianisme. Et je dois dire tout de suite, parce qu'il faut quelquefois, il faut quand on le peut manifester sa satisfaction, dernièrement, quand je suis tombé donc sur le site des sites proches du Vatican, et quand j'ai lu les dernières déclarations du cardinal de Paolis et les pages de la revue des jésuites italiens Civiltà Cattolica, j'ai été enthousiasmé, parce que c'était quelquefois mot pour mot la reprise de beaucoup de choses que je dis dans mon livre.
Ah bon? D'accord.
Voilà.
Effectivement, bon, c'est très bien écrit, c'est très simple, c'est assez amusant par endroits. Et on sent quand même quelque part une certaine forme de sympathie pour l'islam. On a l'impression que vous l'avez écrit en souriant, ce livre.
Ah ben oui, parce que d'abord, vous savez, en général, je préfère faire les choses en souriant. Hein? Bon, ça va de soi. Je l'ai écrit, mais oui, il y a 2 choses. Je crois que, permettez-moi de vous dire, vous placez juste. Bon, il y a sympathie. Non. Je crois que j'ai de la sympathie souvent pour les musulmans. J'ai fréquenté beaucoup de musulmans en France et au Liban. J'admire comme le père de Foucault les admirait. Je crois que vraiment, nous avons un sein pour notre temps avec le père de Foucault. On peut admirer chez les musulmans la ferveur religieuse. Et puis aussi, nous avons fréquenté en France les harkis. Nous avons été très... comment dirais-je, au sein d'un drame qui nous a fait côtoyer l'islam à l'intérieur, voyez-vous, avec beaucoup d'ailleurs de désillusions, je parle des personnes, mais donc de la sympathie pour les musulmans, pourquoi pas, hein, mais donc en revanche, pas du tout de sympathie pour l'islam, alors ça non, hein, qui est un système totalitaire qui est pour moi absolument... épouvantable, et je dirais pourquoi. Vous voyez la dernière nouvelle aujourd'hui de ce qui se passe en Algérie. On vient de voter hier en Algérie un renforcement de la charia, mais interdisant, frappant des lourdes sanctions, enfin, qui voient la mort, hein, la conversion d'un musulman au christianisme. Bien, alors, en souriant, oui, parce que, enfin, la vie du prophète, je ne suis pas allé la chercher dans, mon imagination. J'ai tout simplement été chercher les hadiths. Les hadiths, vous savez, ce sont les anecdotes, les faits et gestes. C'est l'ensemble des textes qui complètent le Coran. Si vous voulez, pour faire vite, pour le musulman, il y a un livre fondamental, c'est le Coran. Je répondrai aux questions s'il y en a. Le Coran, donc, c'est le livre incréé. Il est de toute éternité. Bon, c'est le Coran. Et puis, il y a presque aussi important que le Coran, les faits et gestes du prophète. Ça s'appelle le hadith ou les hadiths, selon que voilà. Donc les hadiths, ce sont les anecdotes, et le hadith, c'est l'ensemble des hadiths. Alors là, ben, il suffit de puiser, quoi, du prophète, qui s'appelle la sira, Et là, on découvre un homme qui est quand même pas, si je puis dire, un enfant de cœur, quoi. On découvre un homme qui est un guerrier cruel, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Hein, c'est la grande historienne juive israélienne d'origine égyptienne. Enfin, elle est d'origine égyptienne, anglaise et juive. C'est Badiéor. Badiéor, est encore une fois une grande autorité en matière de connaissance de l'islam, écrit moi je suis juive, mais je suis bien obligé de constater que lorsque les chrétiens font des choses mauvaises, lorsqu'ils égorgent, ce n'est pas en conformité avec l'exemple du Christ. Tandis que les musulmans, quel est leur prophète? C'est ce prophète qui, à Médine, va ordonnancer lui-même directement donc l'égorgement des hommes de la dernière tribu juive, les Banu Qurayshites, qui lui résistent. Hein, pendant toute la journée, on va donc égorger, et puis le prophète va ensuite distribuer le butin, les femmes, les enfants, à ses guerriers, et lui-même s'en va avec une nouvelle femme dont il vient de faire égorger le père, le mari et les frères. Et il est si impatient de la connaître bibliquement qu'il fait ça en chemin. Bon, donc voilà, c'est le prophète. Et ça, c'est dans toutes les librairies islamiques, c'est la sira du prophète, c'est ce qui est montré, c'est l'homme exemplaire pour les musulmans. Autre exemple, un clan de chrétiens en voie de soumission, qui s'appelle les Hoplites, viennent rencontrer le prophète à Médine. Et là, ils sont malades, ils ont attrapé une tourista sans doute. Et le prophète, qui était évidemment un médecin, va leur prescrire une décoction de lait, de chamelle et d'urine. Et c'est malheureux, ça ne les guérit pas. Ils éprouvent des maux sans doute encore plus grands, et ils maugréent contre le prophète. Celui-ci prend très mal la chose, il n'avait pas du tout le sens de la plaisanterie. D'ailleurs, il a fait égorger les poètes qui s'étaient moqués de lui à la Mecque. Que va-t-il faire? Il va tout simplement faire couper le poignet droit et le pied gauche à chacun de ses hoplites, et leur fait crever les yeux, et il les jette sur la lave brûlante, la pierraille brûlante de Médine. Voilà quel est le prophète. Avec ça, c'est pas besoin de le caricaturer, vous savez, il n'avait pas effectivement une bombe sur son turban, parce qu'à l'époque, d'abord, il n'y avait pas de bombe, pour ce qui est de faire égorger, il s'y connaissait, c'est la réalité.
Une chose dont on s'aperçoit vraiment à la lecture de votre livre, donc on voit de plus en plus des expressions un petit peu renaissantes, comme ça, de la fougue et de la vigueur de la foi musulmane. Mais on voit vraiment que finalement, tant cette tradition de la biographie du prophète que la construction du Coran, il y a de grandes incohérences. Et on se demande si la violence de l'expression de la foi musulmane n'est pas la résultante de cette éclipse de la raison. Finalement, il y a quand même de grands esprits dans le monde arabe, dans le monde arabe musulman. Comment en est-on venu à croire à tout ça? Parce que c'est
oui,
absolument impossible.
Oui, alors là, c'est une... C'est une bonne question. De bon esprit, oui, bien sûr, il y a des musulmans intelligents. Il y en a d'ailleurs aujourd'hui, tel Tariq Ramadan et son frère Annie Ramadan à Genève, qui s'occupe du centre jeune islamique genevois. Pardon ?
Cela, si vous les voulez, on vous les donne.
Non, mais bon, on les a, vous savez, ils passent, ils circulent. Mm-hmm. Mais enfin, encore une fois, vous voyez, effectivement, Tariq Ramadan est la coqueluche des médias. Mais,
les Rousseaux de l'islam, voilà.
Comment ?
Ce sont les Rousseaux de l'islam.
Oui, exactement. Exactement. Mais quand vous parlez des grands esprits, là je vous voudrais tout de même dire, il y a effectivement de tout chez les musulmans, des gens intelligents et des idiots, comme partout, mais on a donné à l'islam beaucoup, on lui attribue la civilisation espagnol du Moyen Âge à l'Andalus. Bon, il y a beaucoup à dire sur cela. Par exemple, dans notre institut du monde arabe à Paris dernièrement, on a fait une exposition intitulée L'âge d'or des sciences arabes. Bon, c'est une escroquerie, parce que ces sciences arabes, elles ne sont pas musulmanes. D'abord, parce que, par exemple, prenons un cas le plus connu, celui des chiffres. On nous dit que nous avons les chiffres arabes. Ces chiffres arabes ne sont pas arabes, ils sont hindous. La plus belle invention de l'humanité, qui s'appelle le zéro, c'est d'origine babylonienne, iranienne, hindoue. En tout cas, le zéro n'est pas une invention arabe et surtout pas une invention musulmane. Les grands médecins, par exemple, les grands chirurgiens, les philosophes, sont loin d'être des musulmans. Je les ai cités dans mon livre. Les médecins sont souvent chrétiens ou juifs. On donne à l'islam ce qu'il ne mérite pas toujours. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des médecins musulmans, il y en a eu un peu. Non, on nous cite ensuite Averroès. Alors si on prend le cas d'Averroès, voilà le grand penseur. Parce qu'en fait, pour ce qui est de la doctrine, si on peut dire, il n'y a guère que deux grands penseurs dans l'islam. Ensuite, il n'y a que des juristes, des différentes écoles, qui n'ont pas un grand intérêt pour nous. Mais enfin, bon, il y a deux grandes références dans l'islam. Lorsqu'on va dans une librairie islamique, je les fréquente souvent, voilà, il y a Averroès et Ibn Taymiyyah. Averroès n'est jamais dans les librairies islamistes, d'ailleurs. Il est dans les librairies de culture musulmane. Mais Averroès, donc, lui, est un maudit de l'islam. Il n'est pas du tout enseigné, ni à l'université Al-Azhar aujourd'hui, ni dans les États islamistes, parce qu'il est considéré comme, dans le meilleur des cas, un hérétique. Il a d'ailleurs été expulsé au Maroc, il a été emprisonné. Donc, Averroès n'est pas du tout, révélateur de ce qu'est l'islam à cette époque-là. L'autre grand penseur, qui est l'inspirateur des Wahhabites d'Arabie Saoudite, qui est l'inspirateur des frères musulmans de M. Annie Ramadan de Genève et de M. Tariq Ramadan de Paris et autres lieux, le grand inspirateur des salafistes, le grand inspirateur des fondamentalistes, c'est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, alors là, je vais vous en dire un tout petit mot, parce que tout de même, il a joué un rôle que je vais vous indiquer. Ibn Taymiyyah, donc, a commenté le Coran, et notamment les sourates et les versets se rapportant à la façon dont on devait traiter le clergé chrétien, et notamment les moines. La réponse d'Ibn Taymiyyah, c'est qu'il ne faut pas les laisser vivre, parce que c'est quand même dangereux. Alors là, on sait que dans le Coran, il y a des versets un peu contradictoires. Tantôt, donc, c'est le jihad, on tue, tantôt, c'est la dhimmitude, on laisse vivre. Mais les moines, pour Ibn Taymiyyah, qui est vraiment le grand penseur musulman du XIVe siècle, il ne faut pas les laisser vivre. Et j'ai brandi un jour au Parlement européen une brochure que j'avais trouvé dans une librairie musulmane près de l'Institut du monde arabe à Paris, qui s'appelle « Le statut des moines ». J'avais été étonné de cette brochure. Très bien, un commentaire du statut des moines d'Ibn Taymiyyah par quelqu'un s'appelant Nasreddin Le Batelier. Je me suis demandé qui était ce Nasreddin Le Batelier, qui concluait, après son commentaire du texte d'Ibn Taymiyyah, à la légitimité de l'assassinat des moines de Tibériade. Ce monsieur Nasreddin le Batelier s'appelle en réalité Jean Michaud, et je révélais devant tout le Parlement européen ébahi qu'il était professeur à l'Université catholique de Louvain. Je vous rassure, il n'est plus à l'Université catholique de Louvain, il est maintenant professeur à Oxford.
Ça nous rassurer. On trouve tout ça dans votre livre, donc. Oui.
Comment ?
On trouve cela dans votre livre.
Ah oui, on trouve cela dans mon livre avec toutes les références. Vous savez, mon livre est maintenant sorti il y a largement plus de 6 mois. Je n'ai eu aucun procès, je n'ai eu aucune critique, mon livre est référencé en tout point, et je défie quiconque de trouver quelque chose qui ne soit pas conforme à ce qui est dans le Coran, dans les hadiths. Mon commentaire est libre, mais ça, ensuite, je pense que je laisse surtout parler les textes, si je puis dire. Voilà donc, vous voyez, le sens de ce livre, donner quelque chose d'utilisation facile, avec une bonne bibliographie, avec les références des livres pour ceux qui veulent aller plus loin, hein, parce que donc ensuite on peut creuser la question, on peut mieux connaître l'islam, mais je crois qu'avec ce livre, on le connaît déjà assez bien, on sait de quoi il retourne.
Alors voilà, il y a une question qui vient assez souvent chez nos auditeurs, donc c'est une question que je me pose moi-même aussi. Donc l'islam est né aux alentours de 622, 110 ans plus tard on les retrouve déjà à Poitiers. Il semblerait quand même qu'en 1400 ans d'existence, il n'y ait pas eu 15 ans de paix entre deux guerres de conquête dans l'islam. Ils arrivent à mener des fronts en même temps sur l'Inde, la Russie, la Chine, la Mongolie, les Balkans, l'Espagne, etc. Ils sont partout. Et depuis toujours, apparemment, ils font des guerres. Il semblerait qu'il n'y ait eu que deux périodes un petit peu de recul. Les croisades, qui semblent être une réaction de fatigue par rapport à plusieurs siècles de mouvements musulmans. Et puis, ensuite, la contre-réforme. Avec Vienne, les Pentes et ce genre de choses. Alors, est-ce que les musulmans ont toujours à l'idée cette volonté de conquérir et de dominer le monde et finalement de nous faire la peau, si on les suit?
Écoutez, c'est simple. Là, il suffit de prendre le Coran. Donc, quand je lis dans une revue d'inspiration chrétienne de surcroît parue il y a 3 ans, que je ne citerai pas sur papier luxueux, que le djihad n'existe pas, ça fait partie de l'imagination des adversaires de l'islam, il faut oser écrire cela. Le père Moussali, qui a été mon maître, vous savez, moi je ne suis pas un spécialiste de l'islam, je ne suis pas arabisant, j'ai essayé de faire quelque chose comme un bon professeur d'histoire que j'ai été jadis, mais à partir donc des matériaux donnés par les meilleurs spécialistes. Alors moi, j'ai connu l'homme qui était probablement le plus grand connaisseur de l'islam, c'était le père Antoine Moussali. C'était un petit homme dont, comme son nom l'indique, Moussali, il était originaire de Mossoul, d'une famille réchappée du génocide des Assyro-Chaldéens, réfugié au Liban, et il avait été professeur pendant plus de 20 ans à l'université d'Alger après l'indépendance de ce pays. C'est dire, il était considéré comme un des plus grands lettrés islamiques par les musulmans eux-mêmes. Et je renvoie toujours d'ailleurs au moins un de ses petits livres qui s'appelle La Croix et le Croissant. Et donc le père Moussali dénombre dans le Coran 700 ce qu'il appelle occurrences violentes. Le Coran est un livre guerrier. Et d'ailleurs, lorsque on écoute la Shahada, c'est-à-dire l'affirmation de l'unicité de Dieu qui suffit à rendre musulman. Hein, pour être musulman, c'est vraiment très très facile. Il suffit de dire avec conviction, il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Mais voyez-vous, cette prière qui est récitée 5 fois par jour, hein, donc la Shahada, hein, c'est une affirmation déjà très très dialectique. Hein, dans sa résonne, disait le père Moussali, en arabe surtout, je ne sais pas dire, je me ridiculiserai auprès de vos auditeurs, hein, donc, mais ça résonne comme d'abord une annulation, il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet et son prophète. Et vous, donc c'est déjà en comparaison donc, aux autres, c'est tourné absolument d'ailleurs contre les chrétiens, puisqu'il faut rappeler tout de même qu'il y a un seul péché qu'Allah ne pardonnera pas, Mahomet le rappelle sans cesse, c'est le péché d'associationnisme, le péché commis par les chrétiens, pas par les juifs, par les chrétiens. Les chrétiens associent deux autres personnes à Dieu. Pour les musulmans, c'est monstrueux, et dans le livre que j'ai acheté à la mosquée de Paris, il les dit que certes, il faut être donc avec les non-musulmans, il faut le dialogue, il faut donc les meilleures relations possibles, mais en sachant très bien que de toute façon, les non-musulmans, ceux qui ne qui professent donc l'associationnisme iront en enfer. Hein. Voilà, un point c'est tout. Donc le Coran est un livre extrêmement violent, 700 versets qui sont des versets de violence, soit donc les châtiments de l'enfer, soit les tortures qu'il faut infliger. J'ai un Coran sous mes yeux en ce moment, j'ouvre au hasard, on peut ouvrir au hasard, on trouvera de la violence. Oui, les incrédules parmi les gens du livre et les polythéistes seront dans le feu de la géhenne, ils y demeureront immortels, voilà le pire de l'humanité. C'est la sourate 48, voilà, verset 8.
Alors ça pose aussi les questions de l'origine exacte du Coran, parce que un mauvais apocryphe du 7e siècle.
Oui, alors là, je n'ai pas voulu rentrer dans cela qui est le fait réellement des spécialistes. Moi, j'ai pris le Coran tel qu'il est reçu par les musulmans. C'est ça qui est important. Parce qu'autrement, on est dans des débats dans le genre Shakespeare n'était pas Shakespeare, mais un homme qui s'appelait Shakespeare. Alors, il est vrai que, on peut parler de ces choses-là, bien entendu. Le Coran, qu'est-ce que c'est ? Hein, pour les musulmans, c'est le texte par Dieu à son prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. On ne peut donc en retrancher aucune ligne. Ce n'est pas du tout comme la Bible, qui est un ensemble de livres inspirés où Dieu chemine, mais enfin la Bible c'est un livre d'histoire. Le Coran, ce n'est pas écrit par Dieu. Pour les musulmans, le Coran est écrit et dicté par Dieu, hein, puisqu'il est de toute éternité. Bon, et là, on sait fort bien que, en réalité, le Coran a été écrit très très longtemps après, qu'il y a eu des affrontements, mais enfin, peu importe, ce qui est important, c'est le Coran que lisent depuis des siècles les musulmans et que lisent le milliard et quelques de musulmans aujourd'hui. Voilà. Alors ensuite, l'origine même, l'inspiration du Coran, il est évident que c'est quelque chose qui est un regurgitement de la Bible. D'ailleurs, qui est Mahomet ? Mahomet se croit un réformateur du judaïsme. Qu'est-ce que c'est que l'islam à l'origine ? Donc c'est tout simplement la tentative de Mahomet donc de remettre la religion dans sa pureté originelle, que les juifs donc ont travesti, trop modifié, et les chrétiens encore pire, puisque eux, ils ont fait du dernier prophète un dieu. Voilà dans l'esprit de Mahomet ce qu'il faisait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était furieux après les juifs, parce qu'il ne comprenait pas que ceci ne se rallie pas, parce qu'il est vrai qu'il y a donc une grande correspondance. Il est certain que Mahomet a baigné dans un enseignement rabbinique. Il est certain que tout dans le Coran rappelle la Bible, mais si je puis dire, avec la propre perception du prophète, si on ne croit pas que ce qu'il a donc récité était inspiré par l'archange Gabriel.
Entendu. Alors, maintenant, prenons les choses d'un point de vue actuel et politique. La démographie musulmane est extrêmement développée. Rien qu'en Suisse, la moitié de la communauté musulmane a moins de 25 ans. Ce sont des gens qui font beaucoup d'enfants. On pense qu'ils seront majoritaires d'ici une cinquantaine d'années, en tout cas en Europe centrale. C'est une certitude. Qu'est-ce que ça va amener, selon vous ?
Qu'est-ce que ça va amener ? C'est l'inquiétude que manifeste maintenant, enfin, le Vatican. Hein, lorsqu'on lit les textes auxquels j'ai fait allusion, hein, que vous pouvez trouver très facilement, donc en pianotant sur Vatican ou sur des sites proches, je n'ai pas ça sous mes yeux, vous trouverez cela, ou vous prenez Civiltà Cattolica ou autre. Enfin, on ouvre les yeux à Rome. Qu'est-ce que ça va amener ? Ça va amener ce qui se passe au Liban, ce qui s'est passé dans nombre de pays musulmans. Parce qu'enfin, il y a une erreur tragiquement répandue quelquefois dans les milieux même de droite qui consisterait à penser que il y aurait comme une adéquation fondamentale entre le monde arabe et le monde musulman, mais que ensuite, les musulmans seraient chez eux dans le monde arabe et qu'ils ne seraient pas chez nous naturellement. Bon, énorme erreur. Il faut rappeler que d'abord, les Arabes sont très minoritaires dans le monde musulman, que le monde musulman est un monde multiracial, que la plus grande nation musulmane aujourd'hui, c'est l'Indonésie. Il faut donc observer que les Arabes ont été chrétiens pendant très 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 longtemps. Il faut observer que la chrétienté d'Orient en un siècle a perdu environ 95% de son effectif. S'il y a des étudiants qui nous écoutent, il y a un livre majeur sur le sujet édité chez Fayard, aux éditions Fayard, qui s'appelle « Vie et mort des chrétiens d'Orient » par Jean-Pierre Valogne. Eh bien, il faut savoir que donc la chrétienté d'Orient, c'est-à-dire ce qu'était à peu près l'Empire ottoman avant la guerre de 14, c'est-à-dire l'ensemble des pays turcs et arabes. Dans cet ensemble de pays, c'est un quasi-anéantissement du christianisme. Alors il reste des chrétiens. Où ? En Turquie, l'éradication est totale. Il faut tout de même se souvenir qu'il y avait 30% de chrétiens en Turquie avant les génocides. On parle toujours du génocide arménien que je connais particulièrement, et on oublie, et c'est un tort, le génocide assyro-chaldéen qui, dans l'horreur, est exactement le même. Mais ensuite, donc, partout, les chrétientés se sont amenuisées, et puis, hélas, on constate aujourd'hui que la politique américaine conduit à l'anéantissement de ce qui restait de chrétienté assyro-chaldéenne en Irak. Disparition des chrétientés. Les coptes d'Égypte sont aujourd'hui, sont depuis des siècles de plus en plus marginalisés. N'oublions pas qu'ils étaient majoritaires. Et pour ce qui est des Libanais, ils sont aussi, eux aussi, donc aujourd'hui, relativement en voie de dimitude. Ils sont encore 40 ou 45%, mais leur situation est celui déjà d'une minorité. Alors, qu'est-ce qui se passera en Europe ? La même chose. C'est Badiéor qui écrit dernièrement, l'Europe est en dimitude, mais elle ne le sait pas encore. Lorsque, par exemple, dans une ville comme Roubaix, on fait la paix en faisant manger de la viande halal dans toutes les cantines scolaires, ça veut dire que les parents non musulmans paient de la taxe sur la viande halal. C'est déjà un petit début de limitude. Alors, nous aurons on voit très très bien. Alors, bien sûr, la guerre a joué son rôle, ce qui se passe au Kosovo. C'est d'ailleurs la faute dramatique, je le dis comme je le pense, des nationalistes et des communistes serbes unis dans le même aveuglement. Je pourrais vous dire pourquoi. Je me souviens quand je disais au chef serbe, j'étais à la commission des affaires étrangères au Parlement européen, je me souviens de leur avoir dit, au lieu de faire la guerre avec les Croates, vous feriez bien de vous occuper de ce qui se passe si mes renseignements sont exacts dans votre Kosovo. Ils m'ont répondu, la guerre résoudra tout cela. Voilà, on sait comment la guerre a résolu la question pour les Serbes. Alors nous pouvons avoir cela, et nous pouvons l'avoir par un phénomène absolument décortiqué par quelqu'un qui est tout à fait remarquable, qui s'appelle Pierre Hillard, et que je vous conseille d'inviter de ma part. C'est un conférencier éminent, il est très jeune, il vient d'avoir donc son doctorat d'état en sciences politiques avec mention très bien, je m'en réjouis pour lui, et il a écrit un livre sur la décomposition des nations européennes, la décomposition par la déstructuration administrative, le détricotage des nations européennes, ce qui permettra de créer, de voir surgir en Europe autant de Kosovo qu'on peut imaginer. Voilà donc pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut réagir. Si si nous ne réagissons pas, eh bien, on peut imaginer effectivement que la dimitude sera instaurée avec cette alternance qui est celle de toute l'histoire de l'islam, l'alternance entre le djihad, c'est-à-dire la guerre, et la dimitude, parce qu'il faut quand même laisser vivre une partie des non-musulmans.
Alors, la jeunesse vous écoute ce soir, comment réagir ?
Voilà, parce que nous ne sommes pas là pour pleurer. Il faut réagir, premièrement, en connaissant le sujet, c'est évident. Connaître. Et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, mais il y en a d'autres. Deuxièmement, il faut informer ensuite. Informer nos contemporains, participer au débat, informer autour de soi le plus possible, parce que c'est le béaba de toute action de résistance. Toute action de résistance passe d'abord par une information de la population. Ensuite, c'est des campagnes d'explication. Par exemple, lorsque on apprend qu'on va construire une mosquée dans tel endroit, eh bien, il faut dire ce qu'est une mosquée. Hélas, évidemment, il faut le faire avec précaution. J'ai été défendre mes amis Patrick Bender et Xavier Coderin, conseillers du Front National en Alsace, poursuivis. L'appel est venu aujourd'hui. Ils ont perdu en première instance pour avoir fait un trac anodin contre la mosquée de Strasbourg. Je dois dire que je parle beaucoup dans mes éditoriaux de l'avocat de la LICRA qui défendait la mosquée de Strasbourg, Maître Nizan, personnage emblématique de la communauté juive. Je ne sais pas s'il pourrait tenir la plaidoirie qu'il a tenue devant moi, devant certaines assemblées juives. Je pense qu'il se ferait aujourd'hui quelque peu huer. Mais enfin, donc, il faut alerter, il ne faut pas accepter les mosquées, ou du moins, il faut dire qu'une mosquée, ce n'est pas un lieu de prière. Comme le dit le prophète d'ailleurs, on peut prier derrière un palmier. Mais donc là, les mosquées sont des lieux d'islam, d'implantation de l'islam. C'est le Dar el-Islam. Donc il faut expliquer, il faut crier, il faut ne pas accepter. Ensuite, il faut manifester. Il faut, par exemple, ce que je m'apprête à faire une nouvelle fois, protester contre ce qui vient d'être décidé en Algérie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réciprocité n'existe pas. Les musulmans exigent de nous, donc dans nos pays européens, ce qu'ils refusent absolument dès qu'ils sont majoritaires dans leur pays. Donc là, c'est très clair, il n'y a guère d'exception. Dans aucun pays musulman, par exemple, la conversion n'est acceptable, sauf à sens unique, évidemment. Donc elle est punie souvent de mort. C'est le patriarche du Liban qui nous disait il y a des musulmans qui se convertissent au Liban parce qu'ils sont attirés, il y a des musulmans nombreux attirés par le christianisme, mais il faut les exfiltrer. Ils sont en danger de mort et souvent ils ne peuvent même pas rester au Liban. Il faut faire savoir toutes ces choses là ensuite il faut il faut essayer de convertir les musulmans. Alors, que faire ? Il y a deux réponses. Une réponse politique, une réponse religieuse. Et les deux ne sont pas contradictoires. La réponse religieuse, c'est que il faut, si on le peut, convertir les musulmans. Et il y a, contrairement à un lieu commun trop répandu, des musulmans nombreux qui se convertissent. Et je pense que, hélas, il y a eu un certain abandon dû à la crise du catholicisme, alors que chez les évangéliques, il y a un grand effort de conversion des musulmans. C'est ce qui, je pense, a motivé d'ailleurs la décision hier de l'Assemblée algérienne, qui s'inquiète beaucoup des conversions au christianisme qu'il y a en Kabylie. Bon, mais en France aussi, et en Suisse, je suppose, et ailleurs, il y a donc des musulmans qui peuvent être convertis. Il faut exiger la réciprocité. Et là, ça devrait être le rôle de l'État, de ses ambassadeurs. C'est ce que le pape a d'ailleurs demandé au président de la République italienne, à M. Berlusconi, d'agir pour la réciprocité. Alors, c'est un moyen aussi de dire aux musulmans, si vous n'accordez pas chez vous ce que vous demandez chez nous, on ne veut pas vous accorder cela. Il y a, bien sûr, le combat politique. Ça passe par l'inversion de la politique d'immigration. Il est encore temps et il ne faut surtout pas faire ce que veut M. Jean-Claude Martinez du Front National, hein, c'est-à-dire qu'il conseille maintenant une entente avec les banlieues, comme il dit. Hein, parce qu'on sait qu'on met là le doigt dans l'engrenage de ce que j'ai connu au Liban, de la libanisation. Cela est dramatique. Donc il n'est pas question de tenter une alliance avec l'islam. Ce serait réellement à courte vue et je crois que nous le paierions très cher à terme. Donc il faut inverser la politique d'immigration et puis il faut se battre pour que l'on combatte l'islam autrement qu'avec des caricatures. D'ailleurs l'affaire des caricatures est un montage, mais un véritable enseignement, hein, sur la réalité totalitaire de ce qui n'est pas une religion. Vous le disiez tout à l'heure très justement, vous l'avez remarqué, je n'attaque pas le côté religieux, je n'attaque pas la religion, j'admire plutôt la religiosité des musulmans. Mais l'islam, c'est un totalitarisme dans lequel on ne distingue ni le on ne distingue pas Dieu et César, le spirituel et le temporel, qui doit tout régir jusqu'aux choses les plus intimes de la vie. Vous voyez ce que je veux vous dire, hein? Eh bien, nous devons le combattre et nous devons donc demander des émissions, et faire en sorte qu'on favorise, par exemple, les filles qui veulent quitter l'islam. Il y en a beaucoup des filles sous le voile aujourd'hui parce qu'il y a un système de contraintes sociales, mais il faut aussi donc permettre à celles qui le souhaitent de pouvoir donc se libérer de cet étau que constitue l'islam.
Mais Bernard Anthony, les solutions que vous proposez ne sont valables que dans un système où les politiques seraient disposés à réagir, où les médias seraient disposés à réfléchir. Or, il se trouve que finalement, on se trouve, en tout cas c'est le cas en Suisse, avec une extrême gauche et une gauche qui est fortement favorable à l'immigration islamique aussi, au combat palestinien, etc. Il y a tout un amalgame qui est favorable à la culture arabo-musulmane en général. Et on se retrouve avec des politiques qui ne voient pas le problème. On se retrouve avec beaucoup de gens, finalement. Généralement, ce sont des gens aisés en Suisse, il n'en manque pas, qui ne voient pas le problème. Alors, est-ce que les solutions que vous proposez ne sont pas réservées à des pays qui auraient encore des politiques, un système démocratique qui permettrait de réagir?
Oui, mais là, c'est... En fait, je n'ai pas... D'ailleurs, si je... Je n'arrive nulle part avec une baguette magique pour dire voilà ce qu'il faut faire. Nous avons conscience d'un phénomène très simple qui est l'intrusion de l'islam dans notre décadence. Nous avons donc en fait des politiques qui ne sont mues que par des intérêts électoraux à court terme, qui en général sont incultes. Lorsque, au fond, le politique moyen, je ne connais pas les politiques suisses, je connais les politiques français. Dans mon conseil régional, j'avais interrogé l'ensemble de mes collègues, au nombre de 93, pour leur demander parmi eux ceux qui avaient lu le Coran. Une seule main s'est levée. Ils n'en savent strictement rien. Hein. Ils croient, finalement, que l'islam, bon, c'est un peu comme le christianisme, le curé s'appelle l'imam, on a des offices, il y a un culte, c'est un tout petit peu comme le catholicisme, c'est une religion de tolérance, ils ont entendu le docteur Dalil Boubaker leur dire cela, et puis ils s'en contrefoutent, c'est évident. Donc là, nous avons un devoir d'animation de la réaction. Mais je ne dis pas que ce soit facile, à vue humaine, c'est même très, très difficile. Ce que je constate quand même, ce sont des clignotants un peu positifs. Hein. On commence à s'inquiéter à Rome après toute la période de dialogue interreligieux. C'est déjà bien qu'au moins, c'est la moindre des choses. Mais enfin, au Vatican, on puisse s'inquiéter et demander la réciprocité, qui est un très bon cheval de bataille, un très bon principe d'alerte. Il faut donc de même faire le siège des politiques, et si possible, il faut faire de la politique, et puis il faut prendre le pouvoir. ça, je dois dire que je ne vois qu'une solution, et pour l'instant, le pouvoir est loin. D'abord, qu'est-ce que c'est que la politique? Là, c'est une autre question. Pour moi, elle a trois orientations. Il faut choisir. On ne peut pas, soit on veut influencer le pouvoir, bon, une politique qui, par exemple, en France, a été menée par des gens comme Christine Boutin, sur certains plans. Elle veut tout de même essayer, de tout en étant très démagogique par ailleurs. Bon, ben, elle essaie, pour la vie, un peu quelque chose. C'est voué à l'échec. Ou bien on veut, on a une fonction tribunicienne, on parle, on dit ce qui ne va pas. Ça a été ce que Jean-Marie Le Pen a fait, avec, encore une fois, beaucoup de talent, mais sans vraiment vouloir une alternative. Ou bien on construit un mouvement, et ce mouvement, bah, il faut tout faire pour mettre en place donc à la fois un moteur, des courroies de transmission, de l'animation, la contre-révolution culturelle, sociale, enfin, ça serait toute une autre émission que nous pourrions consacrer à ce que devrait être un mouvement. Alors pour l'instant, bah, effectivement, ça n'est pas brillant. L'islam rentre comme dans d'humeur dans la décadence de notre société.
Alors justement, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Vous parliez de libanisation de l'Europe. Est-ce que finalement le principe qui est si cher au frère Ramadan de l'Arabia, n'est-ce pas, d'une espèce de califat européen, n'est pas déjà bien en place? Est-ce que les moyens politiques, est-ce que le chemin pour les atteindre n'est pas trop loin? Est-ce que dans cette idée de libanisation, il ne serait pas temps finalement d'apprendre à se défendre, pour être assez direct?
Oui, ben là, écoutez, je pense que, pour être très, très direct, oui, mais la défense passe par une mobilisation de nos peuples. Moi, j'ai vu des peuples debout. Et donc là, et dans ces peuples debout, on voit même surgir des résistances militaires. Chez nous, c'est totalement impossible aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout de consensus. Au Liban, il y a quand même eu, avec beaucoup d'erreurs, c'est une affaire entendue, mais une résistance militaire, celle menée par Béchir Gemayel, hein, parce qu'il y avait aussi, en quelque sorte, un entraînement séculaire de la résistance libanaise chrétienne accrochée à sa montagne. Nous n'avons pas, chez nous, depuis bien longtemps, l'expérience de la résistance à l'islam qui a occupé, ne l'oublions pas non plus, hein, de vastes portions de nos territoires. Hein. On croit que les Arabes sont arrivés à Poitiers, ça s'est reparti, on tourne les brides. Bon non, ils ont demeuré en Provence pendant des siècles tout de même, hein, dans tout le massif des Maures, et dans la vallée du Rhône et ailleurs. Bon. Alors donc, la seule chose que nous puissions faire, c'est d'abord reprendre espoir. Alors, à nous de faire des enfants, hein, à nous de reprendre vie, à nous de lutter pour la culture de vie, ça, je crois que c'est très important. Effectivement, si seuls les musulmans ont des enfants, hein, et si les non-musulmans n'en ont pas, on peut craindre. Hein. Donc, je pense que la réaction doit être simultanément culturelle, biologique, si je puis dire, instinctive. Bon, c'est cela le plus difficile à réveiller. Bon, et puis ensuite, politique, et s'il le faut un jour, évidemment, s'il y a des menaces de type militaire, bon, il faut faire face au terrorisme, il faudra bien qu'il y ait un réveil. Mais ce réveil ne pourra venir qu'après une phase de conscientisation, si je puis m'exprimer avec le jargon de nos adversaires gauchistes, dont nous sommes pour l'instant dans la phase de conscientisation.
Donc, vous restez quand même optimiste?
Non, je ne suis pas optimiste, mais nous sommes pleins d'espérance. Vous savez, quand on prend l'histoire de l'islam, bon, effectivement, il a beaucoup avancé. Il a reculé souvent aussi. Il a reculé tout de même à les pentes. Les croisades lui avaient porté un coup. C'est vrai que pendant deux siècles, les croisades, malgré leurs erreurs, malgré le sac de Constantinople qui fut une bavure tragique, tout de même, on peut dire que les croisades ont préservé Byzance pendant deux siècles. Ensuite, l'avancée turque s'est poursuivie. Elle a été stoppée à Lépante par le pape Saint-Pie V, et puis elle a été stoppée à Vienne, donc en 1785, par notamment l'alliance de Charles de Lorraine et de Jean III Sobieski. Il est d'ailleurs tout à fait remarquable d'observer qu'avant de mourir, le pape Jean-Paul II, qui avait été quand même l'artisan d'un dialogue interreligieux que je ne comprenais pas souvent, pour le moins un peu consternant pour moi, dans son testament spirituel, il parle de son maître en politique, qui est le roi de Pologne, Jean III Sobieski, qui, dit-il, a épargné à la Pologne et à l'Europe pour une longue période la menace ottomane. Bon, ça, ce n'est plus du dialogue interreligieux, c'était déjà la prise de conscience qui s'accentue en ce moment. Alors, vous voyez, ça, c'est quand même important. Je reste donc plein d'espérance. Il faut se battre, mais je crois qu'on ne se bat pas si nous n'avons pas la foi, et profondément, face à l'islam, je ne vois qu'une force capable, c'est de le faire reculer, de ne pas accepter son carcan. C'est la charité chrétienne.
Entendu. Si vous le voulez bien, on va passer aux questions que certains auditeurs nous ont posées. Il y a Christophe de Lyon qui nous demande ce que vous avez fait au Nicaragua pour vous faire tirer dessus.
Eh bien, nous sommes allés au Nicaragua, ça remonte déjà loin. Et c'était au moment où, ça c'est différent d'ancienne, où il y avait donc de la résistance anticommuniste alors que le pays était occupé par les sandinistes. Les sandinistes, pour la commodité, pour raccourcir, c'était en gros les castristes du Nicaragua. Et donc ces sandinistes procédaient comme partout dont procède le communisme et avaient suscité une rébellion des paysans, essentiellement une rébellion de campesinos et aussi celle des indiens mistitos qui ont beaucoup perdu dans cette affaire-là. Il y avait donc là des rébellions, l'une sur au nord et l'autre au sud, et nous sommes allés avec mon ami Alain Sander du journal Présent et Thibaut de la Tournée, vice-président de Chrétienté Solidarité, nous sommes allés rencontrer la Contra, et donc là, dans une base arrière située sur les bords du Rio Conco, tout ça, bon, c'était à l'époque donc des paysans misérables, nous étions là dans un mouroir, et la Contra disposait d'un hélicoptère pourri. Bon, nous en sommes revenus, on ne sait pas trop comment. Les hélicoptères soviétiques, eux, donc, étaient à l'époque en ordre parfait. Voilà, ils ont un peu survolé l'endroit où nous étions, mais non, ça n'était pas très héroïque. Mais ce qui a été formidable pour nous, c'est de rencontrer des gens, un courage absolument incroyable. Et pour la petite histoire, il est en photo dans mon livre, dans le film que le Centre Charlie a produit pour 25e anniversaire. J'ai ramené un gamin. Il avait 15 ans. Il s'était traîné sur des bâtons dans la jungle pendant, m'a-t-on dit, plusieurs dizaines de jours. Il avait pris 5 balles de Kalachnikov, une dans l'œil, la cervelle avait coulé, une autre dans la moelle épinière, une autre dans l'estomac, une autre dans le genou, et une autre, je ne sais plus encore où. Eh bien, j'ai ramené ce gamin en France, on l'a opéré, et il est parti, il avait appris le français, c'était, vous voyez, j'ai vu là des phénomènes de résistance absolument incroyables. J'ai rencontré le docteur Enrique, qui était une sorte de saint, et là je peux dire que la Contra, c'était une résistance chrétienne, même si les curés manquaient, c'était une résistance chrétienne, et je crois vaille que vaille, c'est ce qui a quand même permis de desserrer l'étau des sandinistes qui a été aidé par toute la gauche dont vous parliez tout à l'heure. Voilà.
Et donc, finalement, une question se pose. Est-ce que vous vous êtes battu entre le Liban, la Croatie et le Nicaragua ?
Ah, moi, non. Je n'aurais été d'aucun renfort. C'est pas le petit Bernard Anthony. Notre rôle à nous, c'est un rôle de militant. C'était un rôle consistant. Alors, j'ai même fait des procès. Il y a des livres où l'on me décrit comme étant un trafiquant d'armes, comme ayant participé à je ne sais trop quelle action. Non. Nous avons fait ce que nous avions à faire, aider des orphelins, donc apporter des médicaments. Je pense que c'est se battre. Hein, je ne voulais pas, si on prend par exemple la Croatie, je me souviens d'avoir pu amener 40 tonnes de médicaments. Je ne pense pas que j'aurais été d'un grand renfort face à l'armée rouge serbe au début devant ces chars d'assaut, alors qu'il y avait des unités croates déjà admirablement constituées de mon ami le général Rosso, ancien adjudant de la Légion étrangère française. J'aurais pas été d'une grande utilité. Hein, donc au Liban de même, j'ai naturellement pris parti, donc j'y suis allé une fois par an au moins pendant 15 ans. Nous sommes allés sur les fronts, bien sûr, nous sommes allés avec nos amis, mais ça n'aurait pas été le coup de Kalachnikov de Bernard Anthony qui aurait changé quoi que ce soit. En revanche, je me suis battu en parlant à la télévision, en parlant au Parlement européen, en amenant des vivres, des médicaments, en finançant des gosses. Oui, ce que nous avons fait au Nicaragua, c'était symbolique. On a fait parvenir un peu de matériel optique, on a fait parvenir des jumelles, des choses comme ça. Ce sont des petites choses, mais quand on trouve des miséreux, bon, ils sont bien contents. Au Laos, on a offert au général Boundlet, qui est héroïque, hein, donc des treillis, des chaussures, des choses qui servent. Je dois dire que je suis tout à fait partisan d'appuyer les résistances. Les marxistes ne s'en privent jamais. Moi, si je pouvais offrir donc des moyens de résistance aux chrétiens du Soudan, je leur offrirais tous les moyens que je peux. Mais là, on s'en désintéresse. Mais je n'ai pas les moyens de leur offrir des moyens, hélas.
C'est ça. Est-ce que Chrétienté Solidarité est encore actif dans certains pays?
Non, parce que je ne suis plus, ça a été un donné regret, je ne suis plus au Parlement européen. Le Parlement, ça me facilitait les choses, je dois le dire, notamment financièrement. Ça me permettait quand même, j'avais un budget de voyage que je n'ai plus. Oui, je ne vous ai pas parlé de la Pologne aussi. Nous avons été avec l'Ège Valaisa, nous avons distribué des détraquants de Pologne. Nous avons été aussi en Lituanie, alors que le bunker, enfin l'immeuble du président Landsbergis était assiégé par l'armée rouge. J'ai pu parler, c'est un bon souvenir, à l'époque, dans un poste de radio clandestine en Lituanie. J'étais un peu inquiet en rentrant à Moscou. Vous voyez, ça, c'est ce que nous pouvons faire. Notre rôle à nous, c'est un rôle de rencontre, un rôle d'appui. Alors aujourd'hui, c'est en France, c'est en Europe que nous devons surtout nous battre. En revanche, nous gardons beaucoup de liens avec le Liban, où nous avons organisé notre université l'année dernière, où j'entends revenir dans les mois qui viennent. Donc nous ne quittons jamais le Liban, parce que pour nous, c'est très important. J'ai noué des liens aussi avec les Arméniens. Je compte me rendre donc en Arménie, dans le Haut-Karabakh, qui est une des guerres ignorées. C'est la résistance des Arméniens du Haut-Karabakh face aux Azéris. Voilà, mais nous n'avons pas les moyens de faire beaucoup de choses. Je dis les choses très simplement. En revanche, ce que nous devons faire, c'est être devant, plus nombreux devant l'ambassade d'Algérie pour protester, c'est d'être devant la mosquée de Paris pour demander pourquoi le docteur Dalil Boubacar jamais donc ne s'occupe donc de réclamer dans les pays d'islam ce qu'il réclame encore une fois en France pour sa religion. Nous devons donc faire de l'action d'information, de protestation. Voilà ce que fait aujourd'hui Chrétienté Solidarité avec d'autres.
Eh bien, Monsieur Bernard Anthony, merci beaucoup et encore donc bravo pour votre action. Hein, qui est...
ben moi, bravo pour votre radio et vos initiatives. Voilà. Alors, que je dise quand même un mot pour les auditeurs. L'adresse de la GRIF, comme d'ailleurs on partage les locaux de Chrétienté Solidarité, c'est 70 boulevard Saint-Germain à Paris, Paris 5e. Le numéro de téléphone de la GRIF, c'est 01 40 46 96 31. je dis bien 01 40 46 96 31. On peut commander l'islam sans complaisance au prix de 29 € franco de port. Le site internet de la Griffe, c'est www.agriffe.fr. Et à ceux qui le voudraient, il suffit d'envoyer un petit mot au 70 boulevard Saint-Germain. J'enverrai bien volontiers des exemplaires de Reconquête et de la Griffe pour qu'ils se fassent une idée. Et s'ils veulent me rencontrer, c'est donc très facile aussi. Donc, qu'ils me donnent leur téléphone, parce qu'une résistance, ça se construit. Et bien volontiers, nous pouvons nous rencontrer.
Voilà, et on espère vous voir un de ces jours en Suisse, n'est-ce pas ?
Mais volontiers, d'accord. Quand vous voulez, avec plaisir.
Entendu. Écoutez, nous vous remercions vraiment du fond du cœur. Nos auditeurs pourront retrouver très bientôt les coordonnées électroniques des sites de la Griffe et de Chrétienté et Solidarité, ainsi que l'enregistrement de l'émission. En tout cas, dès demain, ce sera en ligne, c'est promis. On va passer un petit disque et on désannoncera tout à l'heure.
Tabac, qu'avait eu des hauts et des bas.
Marie la patronne était chouette.
Des grands yeux verts, des beaux cheveux noirs.
Ça se passait face aux abattoirs de la Villette. Sur le zinc à l'heure de l'apéro.
Et le mot troublé de vrai pernaud.
Du homme à langoureuse et blanche. Son corps était si ravissant que tous les clients rêvaient de sang. Payer une tranche.
Payer une tranche.
Comme elle avait de la vertu, elle leur disait
sur les tutus, doucement les gabas les pattes.
Et nous, pour pas rester en l'air, on s'en jetait vivement derrière la cravate. Il y avait Eugène en grand costaud, avec des bras comme des marteaux. Qu'aurait-il pu mettre la finette, pensait
si je flanche, les autres gars lâcheront tous mon café tabac.
C'était pas bête.
C'était pas bête. Au mur, il y avait le portrait de Jaurès,
qui était l'épée de Damoclès. Sur les bourgeois et leurs délices, ils l'ont tué.
Mais Damoclès
a passé l'épée à Torres, le beau Boris. C'était le temps des Partagas,
des voltigeurs et des nias. Son café, j'en pleure quand j'y pense. Son vin, ses croissants croustillants, ses propos légers pétillants.
C'était la France.
C'était la France. Depuis lors, ça s'est bien gâté.
Sont venus des rêtres bottés aux figures sans physionomie.
Eugène a dit,
ces salopards, faudra s'en occuper d'Arda. Quelle cochonnerie. Ils l'ont fait, c'était un sale truc.
Ça a fini à Ravensbrück. Pas en a voulu se mettre à table. Marie là-bas et la maigrie. Ses cheveux noirs sont devenus tout gris.
Son teint de sable.
Son teint de sable.
Délivré enfin des SS, elle a retrouvé son tiroir caisse.
Les gars,
cinq disparus sans trace.
Elle a fait recrépir les murs avec un petit filet d'azur autour des glaces.
Eugène est rentré en coup de vieux.
Lui aussi, elle a dit mon Dieu. Il y a eu un grand silence. Elle a fait un geste, il a ri.
Oh non, maintenant c'est fini, la résistance.
La résistance. Elle pleurait, mes cheveux sont gris.
Il a fait bas les miens aussi. Pour moi t'es belle, ma petite Marie.
Quand on s'aime, c'est toujours le printemps. On les a conduits le mois suivant à la mairie.
À la noce, il y eut du bonheur. Marie était belle comme une fleur. Tout fut exquis, le vin, la danse. L'amitié alors ce soir-là. J'ai retrouvé au café tabac la douce France.
La douce France.
C'était Gilles, le petit café tabac. C'est ainsi que s'achève notre émission de ce soir de Bafweb Radio, en vous remerciant bien d'avoir été si nombreux à nous écouter ce soir. Vous retrouverez donc dès demain l'émission en téléchargement avec toutes les coordonnées concernant Bernard Anthony, son ouvrage et les nombreuses associations dont il est le président ou dont il s'occupe. Demain, nous aurons une nouvelle émission spéciale avec Nanterre en direct, Roland Richard, en ce qui concerne le CPE et ses développements en France et dans toute la province. À bientôt et bonne soirée.